Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, pas d'interview, mais une discussion autour des complotistes du 11 septembre 2001. Et je dis bien complotistes, hein, attention, pas comploteurs. On ne va pas parler de ceux qui auraient organisé un grand complot destiné à nous faire croire qu'il y avait eu un attentat qui n'a jamais eu lieu le 11 septembre 2001. Non, pas du tout. On va parler de ceux qui pensent qu'il existe un tel complot, mais qui ne savent pas exactement qui l'a organisé. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord, puisque parmi les complotistes, certains pensent que le complot qu'ils croient avoir mis à jour a été organisé par les États-Unis. Je pense que c'est le courant majoritaire. Et puis d'autres, dont nous allons très très peu parler et que j'ai malheureusement rencontré sur Internet, détestent les complotistes du premier type et eux estiment que le complot visait à la fois à discréditer les musulmans dans le monde et les États-Unis et a été organisé, bien entendu, par les juifs. Voilà ce que j'ai pu lire sur un site franchement antisémite que je ne vous conseille pas du tout. Mais en ce qui nous concerne pour aujourd'hui, nous allons plutôt parler donc des complotistes mainstream, de ceux qui pensent, selon la théorie du complot la plus répandue à propos des attentats du 11 septembre, qu'il y a eu un complot organisé par les États-Unis eux-mêmes, par l'administration américaine, pour faire croire à un attentat sur le World Trade Center en septembre 2001. Alors bien sûr, ce 11 septembre et cette théorie du complot du 11 septembre, on en a déjà parlé sur le balado et avec quelqu'un, vous vous souvenez, de bien plus compétent que moi. Et c'est pourquoi je vais commencer par préciser dans quel but et sous quel angle nous allons aujourd'hui discuter de ça. Alors on a parlé des complots du 11 septembre il y a à peu près un an, si je me souviens bien, sur le balado. C'était une interview de Jérôme Quirant, qui est professeur de mécanique et génie civil à l'université de Montpellier, si je me souviens bien, et qui était venu nous expliquer comment on pouvait réfuter tous les arguments des complotistes qui prétendent qu'il ne peut pas y avoir eu d'avion sur le Pentagone parce qu'on ne peut pas piloter à si basse altitude à cette vitesse, que les deux premières tours qui se sont effondrées n'ont pas pu s'effondrer à cause des avions et que d'ailleurs on a retrouvé des traces d'explosifs dans les sous-sols, que la troisième tour qui s'est effondrée plus tard n'a pas pu s'effondrer suite à l'incendie et aux projections venant des deux premières tours, et que d'ailleurs ils ont la preuve scientifique et technique sur toutes les vidéos trouvées sur Internet que ça s'est passé complètement autrement. Eh bien, sur tous ces points, Jérôme Quirant répond en montrant que si c'est possible, que si un avion de la taille de ceux qui sont rentrés dans les tours peuvent provoquer l'effondrement des deux premières tours, que si on peut également conduire, piloter un avion même après avoir fait seulement quelques heures de cours de pilotage, eh bien on a suffisamment de connaissances pour foncer sur le Pentagone et faire un tout petit trou de souris, nous disent les complotistes, qui n'est pas si petit que ça, le trou, puisque apparemment, à part les complotistes, tous les scientifiques venus sur place pensent que l'avion a pu passer par là. Donc, vous voyez, des réfutations scientifiques. Alors, les réfutations scientifiques des arguments des complotistes peuvent être données, ont été données par Jérôme Quirant, mais bien sûr, lui, il connaît bien la mécanique, le génie civil, il connaît pas bien le pilotage des avions de ligne. Et moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va chercher des gens qui connaissent bien la question. Et voilà pourquoi j'ai rencontré Jérôme Quirant dans le cadre de l'Association française pour l'information scientifique, AFIS, parce que Jérôme Quirant, à la demande, je crois, du rédacteur en chef, a organisé, coordonné un dossier, un numéro spécial qui est sorti en juin 2011, un numéro spécial pour répondre aux arguments des complotistes du 11 septembre 2001. « Alors l'approche du dossier est tout à fait conforme à celle que nous avons pu entendre sur le balado il y a un an lorsque Jérôme Quirant avait été interviewé par Jean-Michel Labrassard. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une approche plutôt technique ou scientifique où on prend point par point certains éléments avancé par les complotistes, pas tous parce qu'on ne peut pas, je vous en reparle tout à l'heure, mais on reprend les plus grands arguments, c'est-à-dire ceux qui sont mis en avant par les complotistes, et puis on essaye de montrer que non, scientifiquement ça ne tient pas debout, que scientifiquement, si c'est possible de conduire, enfin scientifiquement en l'occurrence plutôt techniquement, si c'est possible d'envoyer un avion, même en ayant assez peu d'heures de vol derrière soi, d'envoyer un avion sur le Pentagone, que c'est tout à fait possible également que des tours s'écroulent après un incendie, même si la température n'atteint pas la température à laquelle l'acier fond, puisque ça c'était un des premiers arguments avancés par les complotistes, etc., etc. Alors on passe en revue comme ça dans ce dossier différents arguments. Moi je suis intervenu uniquement sur un argument statistique concernant les délits d'initiés. Je vous en parle peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si c'est très intéressant, on verra. En tout cas, on a fait appel à des spécialistes de thèmes très variés. On a fait venir un spécialiste en chimie, on a fait venir un spécialiste en explosifs, un spécialiste en construction métallique, en effondrement des bâtiments, etc. Et qui tous nous disent la même chose. Alors bien sûr, les complotistes vous diront, oui, tous vous disent la même chose parce que vous avez choisi des scientifiques qui pensent évidemment qu'il n'y a pas eu de complot, et c'est pour ça qu'ils parlent ainsi. Bon, ça, je me rends bien compte que les complotistes ont là une réponse toute trouvée. Néanmoins, voilà, on a trouvé en tout cas toutes sortes de scientifiques qui nous confirment qu'il peut très bien ne pas y avoir eu de complot, en tout cas qu'il n'y a pas la moindre preuve de complot là-dedans. Eh bien, c'est pas de ça que je vais vous parler dans la suite de l'émission, parce que les réfutations scientifiques, d'abord, c'est mieux quand c'est fait par des spécialistes, et ça a été fait dans le numéro spécial, le dossier de science et pseudosciences dont je viens de vous parler. D'autre part, parce que Jérôme Quirant en avait déjà parlé, et qu'il a écrit deux livres à ce sujet que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez. Et donc, c'est d'un autre aspect que je vais vous parler. Un aspect qui déborde très largement les histoires de complotistes du 11 septembre, mais où j'ai trouvé, avec ce dossier, et puis avec ma rencontre, Internet surtout, avec les complotistes, une matière assez dense à discussion. Ce dont je voudrais vous parler, donc, c'est des méthodes et des techniques utilisées par les complotistes du 11 septembre, qui débordent encore une fois très largement les théories du complot. Ça n'est pas spécifique aux théories du complot, et encore moins aux théories du complot autour du 11 septembre 2001, évidemment, et peut-être même qu'on pourrait reprocher aux sceptiques d'utiliser d'ailleurs les mêmes techniques, c'est tout à fait possible. Je n'en disconviens pas, et puis ça change rien à la question. Donc voilà, je voudrais illustrer avec des histoires que j'ai vécues autour de la construction de ce dossier, qui était un peu mouvementé, discuter de techniques, de méthodes utilisées, sciemment ou non, ici par les complotistes, essentiellement les membres du forum et du site Reopen 9-11, je ne sais pas si on doit dire Reopen 9-11, mais enfin c'est francophone, hein, c'est fait par des Français. Voilà, des techniques, un ensemble de techniques dont je voudrais vous parler, qui font, bon, c'est pas, on n'aura pas dressé un tableau complet de tout ce qu'on peut lire évidemment sur leur site, loin s'en faut, mais on aura une idée de certaines méthodes utilisées assez régulièrement. Première méthode qu'on pourrait appeler, alors je crois qu'il y a un nom normalement pour ça, mais qui m'est sorti de la tête. Mais on pourrait appeler ça au choix la guerre des tranchées ou la méthode du tsunami. Première méthode qui consiste à harceler au sens, pas au sens légal du terme, mais à harceler les sceptiques, à les noyer sous un flot de messages, d'arguments, de commentaires, etc., qui fait que le sceptique ne peut pas répondre tout simplement parce que le sceptique est moins motivé. Je crois que c'est le fond du problème, c'est ça, que le sceptique est moins motivé pour répondre que les complotistes. Cette idée de motivation, je l'ai entendue, elle est assez naturelle, mais je l'ai entendue aussi dans une conférence de Gerald Bronner, conférence que Gerald Bronner a donnée, je crois, en mai 2011 à l'Assemblée Générale de l'AFIS, où il parlait des rumeurs, etc., autour du principe de précaution. Donc, a priori, rien à voir avec les théories du complot du 11 septembre, mais il disait ceci, il disait le déséquilibre qu'il peut y avoir entre les sceptiques ou les rationalistes et puis les tenants d'une croyance ou d'une autre, tient à ce que, bien souvent, les tenants d'une croyance minoritaire, en tout cas, sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus acharnés que les rationalistes qui, finalement, n'accordent pas beaucoup d'importance à telle ou telle défense rationnelle particulière. C'est-à-dire, on peut être très impliqué dans le rationalisme en général, ce qui est déjà assez rare, mais alors s'impliquer spécifiquement pour debunker les complots du 11 septembre, les théories du complot du 11 septembre, ou l'homéopathie, ou la psychanalyse, ou ceci, bon, c'est quand même quelque chose de relativement rare. Alors ça s'explique, c'est absolument pas une preuve évidemment que les rationalistes ont raison, ça en soi, hein. Ça s'explique tout simplement par le fait que malgré tout, pour chacun de ces points-là, et notamment ce qui concerne les théories du complot du 11 septembre, les sceptiques, les rationalistes sont très largement majoritaires. Donc on a une espèce de confort, c'est-à-dire que si je ne me bats pas pour convaincre le monde entier qu'il n'y a pas eu de complot le 11 septembre 2001, eh ben, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. De toute manière, autour de moi, les gens sont déjà convaincus de ça. Au contraire, si vous êtes convaincu d'une opinion très minoritaire, donc comme cette histoire de complot autour du 11 septembre, vous voulez convaincre. Et puis ça a beaucoup plus d'importance pour vous, évidemment, parce qu'il y a quelque chose à dénoncer, il y a une sorte d'injustice que nous, on ne ressent pas. Du côté rationaliste. Alors ça, c'est pour les explications de la différence d'acharnement, si on veut, entre les rationalistes et les tenants, ou en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, les complotistes. Et ça explique pourquoi, la première fois que j'ai rencontré Jérôme Quirant, c'était à Paris, entre deux avions, il allait prêcher la bonne parole à deux coins de la planète, et puis entre deux, il passait par Paris. Alors je l'ai attrapé un petit peu, et puis on a été discuter pendant quelques heures dans un café l'élaboration du dossier. Et pendant cette discussion, il m'a dit, tu vas voir, si tu participes au dossier, tu peux t'attendre à recevoir énormément de courriers, énormément de commentaires, des messages, etc., des tenants, des complotistes, parce que même s'ils ne sont pas très nombreux, d'ailleurs, ils sont peut-être pas très nombreux, mais ils sont peut-être quand même plus nombreux que les rationalistes qui militent contre la théorie du complot. Mais enfin, indépendamment de ça, même s'ils sont pas très nombreux, m'a-t-il dit, ce sont des acharnés. Et peut-être même, c'est bien possible qu'il a utilisé un mot encore moins doux que acharné. En tout cas, sur le coup, moi, j'ai pris ça un peu à la légère, parce que je me suis dit, on a déjà, à l'AFIS, fait des dossiers spéciaux contre la psychanalyse, contre l'homéopathie, vraiment des institutions, vous voyez, des trucs... Alors là c'est pas un groupe ultra minoritaire, c'est pas une secte ou je ne sais pas quoi, au sens minuscule, renfermé sur soi-même, pas du tout. Là, c'est des gros machins. Et les psychanalystes, il y en a, on les entend partout dans les médias. Et puis alors les homéopathes, n'en parlons pas. Il y a des pharmacies qui vendent de l'homéopathie à tous les coins de rue. Donc quand on s'attaque à des choses comme ça, on se dit, ce qu'on a vu là, les réactions négatives qu'on a pu avoir, eh bien, ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire de pire. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pour vous donner une idée, sur mon blog, qui est en général quand même relativement consensuel, hein, mais enfin, il m'arrive de faire des billets contre Lacan, par exemple, ça m'est arrivé, contre la psychanalyse, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, ou bien contre telle ou telle pseudo-science, ou résultat pseudo-scientifique, notamment la soi-disant démonstration de la précognition par BEM, Daryl BEM, j'avais fait un billet là-dessus. Eh bien, j'ai jamais eu plus de deux ou trois commentaires. Jamais. C'est-à-dire, il y a quelques réactions de temps en temps, mais enfin, bon, c'est quand même assez limité. Hein. Eh bien, pour le 11 septembre, j'ai dépassé allègrement la vingtaine de commentaires, très rapidement. J'étais arrivé à plus de 10 commentaires avant même la publication du dossier. Et tout ça pourquoi ? Pour un billet qui annonçait simplement la sortie du dossier du numéro spécial de Science et Pseudosciences sur les complotistes du 11 septembre. Donc déjà une dizaine de commentaires avant même que le numéro soit sorti. C'est vous dire à quel point les complotistes ont de l'énergie. C'est assez admirable. Alors bien sûr, dans chaque commentaire, dans chaque message que j'ai pu recevoir, il y a des remarques, des questions, des critiques auxquelles on pourrait répondre point par point. Ah, et voilà, a priori on pourrait, hein. Sauf que chaque commentaire contient 5, 3 dans le meilleur des cas, sinon 5, sinon 8, sinon 10, critiques, remarques, attaques déguisées, etc. Et si on a le malheur d'essayer d'y répondre, on reçoit des contre-critiques 10 minutes plus tard qui nous disent que c'est pas vrai. Voilà, alors pour illustrer un petit peu, je vais peut-être prendre un exemple vécu bien entendu, hein, et vous allez comprendre tout de suite... que c'est du vécu. Alors voilà l'exemple. Sur mon billet, sur mon blog, j'avais indiqué, donc, en annonçant la sortie du dossier sur le 11 septembre, les complotistes, que les complotistes prétendaient qu'il y avait une controverse scientifique à propos des attentats du 11 septembre. Et moi je disais, non, il n'y a pas de controverse scientifique. Une controverse tout court, je veux bien, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il y a un complot, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas, ça d'accord. Mais controverse scientifique, pour moi, ça veut dire que des scientifiques s'opposent sur un plan scientifique, que donc certains scientifiques spécialistes du domaine défendent la version officielle, entre guillemets, comme disent les complotistes, qu'il n'y a pas eu de complot, mais un attentat avec des avions, comme tout ce qu'on a vu à la télé, et que c'est pour ça que les tours se sont effondrées. Et puis, de l'autre côté, d'autres scientifiques, très compétents également, qui disent « Non, non, c'est pas possible, moi j'ai des preuves que ça s'est pas passé comme ça, c'est pas possible, j'ai retrouvé des explosifs, etc. Voilà. » Or, quand on regarde ce qui se passe là où il faut regarder, c'est-à-dire dans les publications scientifiques, dans des revues à comité de lecture, ce qu'on trouve, c'est... une quasi-unanimité, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'articles pour analyser tel ou tel point, et tous allant dans le même sens de la version officielle, entre guillemets, donc tous concluant que oui, c'est tout à fait possible que ça se soit passé comme on l'a vu à la télé et qu'il y a eu des attentats. Maintenant, bien sûr, il faut voir que pour tous les sujets, on arrive une fois de temps en temps à caser dans des revues à comité de lecture à peu près tout et n'importe quoi. Il y a eu énormément d'arnaques scientifiques au cours des siècles, publiées dans les très grandes revues. Récemment, Daryl Bem, qui est un psychologue assez connu, mais qui fait aussi de la parapsychologie, a prétendu avoir démontré la précognition. Il a réussi à publier son papier pseudo-expérimental dans une grande revue de psychologie. Donc il y a des ratés, évidemment, il y a des ratés. Et quand on cherche... très, très attentivement, si par hasard il n'y aurait pas quand même dans les revues à comité de lecture scientifique des articles défendant la théorie du complot, on en trouve. Et à l'époque où moi j'avais cherché, j'en avais trouvé un seul. Et pour vous donner le degré de crédibilité, donc pour l'instant on est à un seul contre une centaine, hein, le degré de crédibilité, l'article a été publié à la suite de magouilles incroyables qui ont conduit plusieurs membres du comité de rédaction de la revue à démissionner parce qu'ils étaient scandalisés par la manière dont ça s'était passé. Donc ça c'est le premier point pour vous dire que c'est assez bizarre quand même la manière dont ça s'est passé. D'autre part, c'est la revue en question, je me souviens plus du titre, mais c'est une toute petite revue. Vous pouvez retrouver ça très facilement soit en allant sur mon blog, soit en allant chercher les documents vantés par Reopen 9/11, qui est donc le site francophone, hein, des truffeurs, comme on dit, des complotistes. Et vous verrez qu'il s'agit donc d'une petite revue publiée uniquement sur le web, ce qui en soi est absolument pas problématique évidemment. Seulement quand en science, hein, on se contente pas d'une publication. Donc quand on a une publication qui dit quelque chose et plusieurs centaines qui disent le contraire, en général quand même, la publication toute seule a tort. Ça c'est assez intuitif, hein, d'ailleurs, comme résultat, on pourrait dire. Alors j'avais mis ça sur mon billet de blog, sur mon blog j'avais écrit ça. J'avais dit, voilà, il y a un seul article qui va contre, donc on ne peut pas parler de controverse scientifique. Mais alors évidemment, le fait qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas parler de controverse scientifique, c'est complètement secondaire. C'était pas le but. Mon but dans la vie, et surtout en ce moment, ça n'est pas de démontrer qu'on ne peut pas parler de controverse scientifique. Mais j'ai eu des commentaires, et oui, voilà, des commentaires répétés d'ailleurs, pour m'expliquer que j'avais complètement tort factuellement, qu'il existait en réalité plusieurs articles, au minimum 5. J'ai eu ça dans un premier commentaire. Ensuite, on m'a dit au minimum 3 qui vont dans le sens des complotistes et donc qui disent bien des articles scientifiques, hein, dans des revues à comité de lecture qui concluent que la version officielle n'est pas crédible. Alors j'étais regardé les 3, effectivement, c'est vrai, j'avais eu tort là sur ce d'un point de vue factuel, hein, ça, j'avais eu tort de dire qu'il y a un seul article paru dans une revue à comité de lecture, etc. Il y en a effectivement trois, écrits tous les trois par la même personne, donc le même qui a magouillé pour la revue, écrits tous les trois dans une toute petite revue uniquement en ligne. J'ai un gros doute sur la crédibilité de ces trucs-là. Et j'aimerais que ce soit confirmé par d'autres recherches, que ce soit confirmé dans des grandes revues, et puis que ce soit écrit autrement. Parce que quand vous lisez le contenu des articles, ne serait-ce que l'introduction, c'est quand même... c'est pas franchement complotiste, hein. Il dit pas non, c'est pas possible, la version officielle est fausse, hein. Il dit il y a quand même des points un peu douteux et encore discutables dans la version officielle, des choses comme ça. Ou alors il pointe certaines petites contradictions dans différentes publications. Alors c'est très bien que ça existe, moi je dis pas le contraire, hein. C'est très bien qu'il y ait des gens pour dénoncer des petites contradictions, ça permet d'avancer, ok, il n'y a pas de problème. Seulement, on est quand même encore loin, dans mon esprit, de ce qu'on appelle une controverse scientifique. Parce que un chercheur qui arrive à publier une toute petite revue face à des centaines de chercheurs qui publient depuis 10 ans et qui disent le contraire et qui sont à peu près tous d'accord, pour moi, c'est pas encore vraiment une controverse scientifique. Non, ça, je dirais pas ça. D'ailleurs, si on cherche dans des revues scientifiques, à comité de lecture, des arguments pour l'homéopathie, on en trouve beaucoup plus que 3. Des arguments pour la psychanalyse, on en trouve des dizaines de milliers. Des arguments pour la... n'importe quoi, hein, pour la télépathie, la précognition, etc., on en trouve des centaines. Donc c'est pour dire que tout ça, ça prouve pas, à moins de croire évidemment à tout ce que je viens de citer, ça prouve pas grand-chose, et en tout cas, je continue à ne pas appeler ça une controverse scientifique. Encore une fois, qu'il s'agisse ou non d'une controverse scientifique, ça n'a que peu d'importance, et ce que je voulais illustrer en vous parlant de cette histoire, c'est que, en fait, du fait que les complotistes sont, ont beaucoup d'énergie, beaucoup plus que moi apparemment, on ne peut pas répondre à toutes leurs critiques, on ne peut pas répondre à tous leurs arguments, parce que là je vous parle des critiques et des commentaires qui ont été faits sur mon blog. Mais il n'y a pas que ça, il y a des arguments, et des arguments qui ont été donc démontés dans plusieurs livres, dont ceux de Jérôme Quirant, un par un, méthodiquement. Et ce qui se passe, c'est que les complotistes ont chaque fois un nouvel argument à sortir. Ils continuent à en chercher, exactement comme on voit ce genre de phénomène, hein, avec plein de croyances tout à fait différentes, souvent minoritaires, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fausses, évidemment. Vous avez la même chose, par exemple, en ufologie. Quand vous avez démonté 150 témoignages, on vous dit « oui, mais il y en avait un 151e, et celui-là, vous n'en avez pas parlé, ça prouve que vous ne savez pas montrer que ce n'est pas un vrai témoignage, et ça prouve donc qu'il y a des extraterrestres parmi nous. » Je caricature, évidemment, mais l'idée est là. Alors, vous aurez une idée de l'inondation qu'on peut subir quand on se renseigne sur les arguments des complotistes, dont à mon avis aucun ne tient, mais évidemment j'ai pas pu tous les lire, en allant visiter leur site, donc Reopen 9-11, encore une fois, vous verrez, hein, vraiment, c'est hallucinant, une foule d'arguments, des petits trucs, des petits détails sur l'heure d'arrivée d'un tel, etc., le nombre de gens qui sont descendus, les coups de téléphone, enfin bref. Alors qu'est-ce que ça a donné, cette méthode du tsunami, dont je vous ai parlé un peu longuement, hein, je suis désolé si vous commencez à vous ennuyer, on va changer de sujet très bientôt. Ce que ça a donné à propos du dossier, puisque moi j'ai entendu parler les complotistes bien avant la sortie du dossier, je vous ai dit, ils étaient déjà sur mon blog en train d'écrire de nombreux commentaires, mais après la sortie du dossier, évidemment, ça, ils sont repartis de plus belle, forcément. Et ils prétendent sur leur site avoir lu attentivement notre dossier, ce qui nous a fait bien plaisir, et avoir trouvé que des arguments, n'y avoir vu que des faux arguments et de la pseudo-science et du n'importe quoi. Et alors, l'un des arguments qui revient souvent contre le dossier, donc, utilise la méthode du tsunami. En clair, ça revient à dire... Oui, alors dans le dossier, d'accord, ils ont parlé des deux premières tours et de la troisième et du Pentagone, d'accord, ils ont parlé des délits d'initiés, ok, ils ont parlé de tout ça, aussi ils ont parlé, c'est vrai, des coups de téléphone qui avaient été passés depuis les avions, mais seulement, ils n'ont parlé que de 4 coups de téléphone, or il y en a eu plus, et s'ils ne disent rien sur les autres coups de téléphone qui ont pu être passés des avions, c'est bien qu'ils n'avaient rien à dire, et que nous avons donc... raison. Deuxième technique utilisée par bien des gens, dont les complotistes du 11 septembre, et c'est à propos d'eux que je vais en parler ici, la méthode de l'esquive. On s'en va, on parle d'autre chose. Alors, il y a plusieurs manières d'esquiver, mais là, je vais vous parler de peut-être deux manières d'esquiver. Alors, non, la première, je viens d'en parler en réalité, parce que c'était associé à la méthode du tsunami. Ça consiste simplement à se focaliser après coup, quand on a lu les arguments donc de l'AFIS, hein, puisqu'il s'agit aussi du dossier de l'AFIS quand même. Quand on a lu ces arguments et qu'on est un complotiste, eh bien, pour esquiver, ce qu'on peut faire, c'est dire « Oui, oui, d'accord, ils parlent de plein de choses, mais ils n'ont pas évoqué tel et tel sujet. » Et ensuite, on se recentre, et on recentre toute la discussion interminable sur le forum sur les quelques points qui n'ont pas été abordés dans le dossier de sciences et pseudosciences. D'ailleurs, je dis les quelques points, mais je suppose qu'il y en a plein, vu la quantité industrielle d'arguments, entre guillemets, proposés par les complotistes. La deuxième manière d'esquiver, dont je voulais parler, c'est de ne pas répondre tout en faisant croire qu'on a répondu. Alors, ça reviendrait pour ceux qui aiment les images. Vous avez un obstacle en face de vous, c'est l'argument des sceptiques. Vous faites le tour, vous vous retrouvez de l'autre côté et vous dites « Voyez, il n'y a pas d'obstacle, je suis passé ». Eh oui, sauf qu'on a fait le tour et on n'est pas passé à travers l'obstacle. Voilà ce qui s'est passé à propos du dossier donc sur le 11 septembre proposé par Science et Pseudosciences et ce qui s'est passé sur les forums des complotistes. Moi, j'ai écrit dans ce dossier, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails parce que ça n'a aucune importance, mais j'ai écrit deux articles. L'un discute uniquement d'un point statistique très précis. Il y a un argument pseudo-scientifique, pseudo-statistique, selon lequel il y a eu des délits d'initiés qui prouveraient que des gens étaient au courant qu'il y aurait un attentat ou un complot avant le 11 septembre, et les complotistes en déduisent que donc il y avait un complot. Alors je passe rapidement, simplement pour vous dire que même indépendamment de ma réfutation statistique en béton, alors là je maintiens que c'est en béton parce que dans l'argument statistique, il y a une erreur statistique tout simplement, qui là on ne peut pas revenir dessus, hein, mais indépendamment de ça, même si c'était vrai, et même si quelqu'un avait eu vent des attentats, je ne vois pas très bien en quoi ça prouve qu'il y avait un complot. On peut très bien connaître quelqu'un qui connaît un terroriste, par exemple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait imaginable dans le monde de la finance. Bon, mais ceci, de toute manière, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler, puisque, encore une fois, l'argument statistique avancé est de toute façon faux. Alors ça, c'est le premier article que j'écris là-dedans. Le deuxième est beaucoup plus léger, mais bien qu'il soit léger, je pense qu'il méritait quand même une réponse des complotistes. Alors, le deuxième n'est pas scientifique, hein, c'est simplement un article d'opinion, si vous voulez. On pourrait même appeler ça un billet d'humeur, si on veut. Et je disais en gros ceci, je disais que... Et alors, je suis vraiment pas le premier à le dire, donc je ne veux pas me vanter d'avoir dit ça, puisque bien avant moi, des gens très célèbres ont dit exactement la même chose, beaucoup mieux. Mais enfin, voilà, l'idée, c'est simplement que, dans l'absolu, bien sûr, que les États-Unis sont capables de faire des complots de cette ampleur et de massacrer des gens de chez eux, ça... J'en doute pas une seconde, mais qu'en l'occurrence ça tient pas debout, et ça tient pas debout tout simplement parce que si on admet un instant l'hypothèse d'un complot, la manière dont ça s'est déroulé est complètement stupide. Ça veut dire que ce serait vraiment des idiots phénoménaux. Enfin, c'est même pas concevable qu'on puisse être stupide à ce point-là, puisque vous avez des gens qui savent très bien que si on lance un avion dans les tours, par exemple, les tours ne vont pas s'effondrer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en plus des avions des explosifs dans les sous-sols pour que ça tombe. Voilà, c'est ce que nous disent les complotistes. Mais après l'attentat, ils nous disent que c'est simplement les avions qui ont fait s'effondrer les tours, alors qu'ils savent pertinemment que c'est impossible et que dans le monde, il y a quand même beaucoup de gens, si c'est impossible, qui doivent le savoir, ça, que c'est impossible, et qui vont le dire. Et donc ça va faire tout un bazar, et puis tout le monde va s'apercevoir que c'était un complot. Voilà, donc je dis simplement que si l'administration américaine avait voulu faire un complot, ils auraient fait quelque chose au minimum crédible. Alors soit il n'y aurait pas eu les avions, soit ils auraient fait exactement ce que disent les complotistes, c'est-à-dire les avions et les explosifs en dessous, et ensuite ils auraient annoncé au monde entier qu'il y avait eu un attentat d'une ampleur extraordinaire qui impliquait deux avions plus des explosifs en bas de la tour et qu'on se demande bien comment ils ont eu ces explosifs. Voilà. Autre chose, les complotistes nous disent sur le Pentagone, il n'y a pas eu d'avion, c'est pas possible, en fait c'était un missile. Alors là, pareil, je me dis, mais si c'est un complot, faut-il être quand même couillon pour se dire, on va envoyer un missile, il y a des centaines de témoins, mais c'est pas grave, hein, on va les acheter. Et puis ensuite, on dira au monde entier que c'était un avion, alors que c'est complètement impossible. Voilà, alors moi je dis, c'est absurde, ça ne tient pas debout. Voilà, ça c'est les deux articles tout petits que j'ai écrits pour ce dossier spécial, donc ça c'est pas très nouveau, je suis absolument pas le seul à raconter ça, et je suis très 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 loin d'être le premier. Mais enfin voilà, mes deux articles. Alors qu'est-ce que ça donne ensuite comme réfutation sur les sites des complotistes, puisque les complotistes m'ont dit « Votre article est sorti, vos articles sont sortis, le dossier complet ». Et nous l'avons lu et nous l'avons entièrement réfuté. Allez voir notre site et vous serez stupéfait. Alors j'étais voir leur site, effectivement, j'étais stupéfait qu'il n'y ait absolument aucun contre-argument à ce que nous avions écrit. Et alors en ce qui concerne mes deux articles, donc, quels sont les arguments entre guillemets, avec des gros gros guillemets, vous pouvez même en mettre deux de chaque côté, je pense que ce serait mieux. Eh bien, il y a deux personnes qui en parlent, c'est très court, hein. Une personne qui dit « c'est n'importe quoi, je laisse les autres expliquer pourquoi ». Alors ça, c'est une esquive pure et dure, hein, sans même tentative de faire croire qu'on n'a pas esquivé. Et un autre qui mélange mes deux articles en disant absolument n'importe quoi et en me faisant dire, par exemple, en affirmant que dans le deuxième article, donc l'article non scientifique, que dans cet article, j'ai prétendu que les... terroriste avait envoyé un missile sur le Pentagone. Ah ! Alors que je ne me souviens pas vraiment de... Et j'ai relu depuis l'article, non, j'ai pas dit ça. Voilà, une autre méthode d'esquive. On travestit un peu l'argumentation de l'adversaire pour ensuite réfuter cette argumentation transformée. C'est beaucoup plus facile que de réfuter le véritable argument. Là encore, c'est pas du tout, c'est comme pour tout le reste, hein, c'est pas du tout spécifique au complotisme du 11 septembre. Et alors cette manière de procéder, on l'a vu faire des milliers de fois, j'exagère peut-être un peu, des dizaines de fois, disons, par Elisabeth Rudinesco quand elle veut réfuter des arguments contre la psychanalyse. Elle fait dire, par exemple, là, on ferait toutes sortes de choses qui sont pas écrites dans le livre. Par exemple, on aurait expliqué que Freud était antisémite. Alors elle dit, Onfray dit que Freud est antisémite, et ensuite elle passe deux pages à vous expliquer pourquoi c'est complètement ridicule. Effectivement, c'est complètement ridicule, et pendant les deux pages, on oublie de se demander si c'est vrai. Et ça n'est pas vrai. Voilà, alors là c'est un peu pareil. Vous avez donc différents types d'esquives, hein, dont je vous ai parlé. Vous avez ne pas répondre, se concentrer sur des choses dont l'adversaire n'a pas parlé. Et puis vous avez aussi cette méthode qui consiste à traverser l'argument de l'adversaire pour réfuter autre chose que son argument. Et troisième type d'argument dont je vais vous parler aujourd'hui, qu'on pourrait appeler le discrédit, enfin en gros c'est l'attaque ad hominem, pour donner le nom habituel. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre sur le fond, sur les arguments, on répond en attaquant la personne qui produit les arguments. Alors ça a été très net pour Jérôme Quirant, qui a été accusé d'être totalement incompétent dans à peu près tous les domaines possibles et imaginables par les complotistes, qui eux par contre avaient des scientifiques de renom très célèbres à nous proposer. Et par milliers en plus, hein, puisqu'ils ont une pétition signée par plusieurs milliers de personnes, dont, nous disent-ils, des ingénieurs et des architectes. Voilà, donc le débat s'était pas mal centré, enfin le débat... si on peut appeler ça un débat, c'était pas mal centré autour de ça, la compétence des gens. Alors comme sur Reopen 9-11, ils sont quand même relativement polis, enfin les gens avec qui j'ai eu des contacts, honnêtement, sont toujours restés polis, mais alors c'est toujours dans le sous-entendu, vous voyez, dans le... un peu sournois, si on veut. C'est quand même beaucoup plus agréable que se faire insulter directement, donc je préfère comme ça. Mais voilà, on remet en cause... Alors, soit les compétences, il y a différentes manières de procéder hein, pour le discrédit. Donc, pour Jérôme Quirant, la première chose, ça a été d'expliquer qu'il était incompétent et que, d'ailleurs, de toute façon, un type aussi acharné, c'est-à-dire presque aussi énergique que les complotistes, était complètement aveuglé par sa passion, manifestement, et que donc, il n'était pas crédible. Pour d'autres, ça a consisté à dire simplement que s'ils étaient compétents dans leur domaine, ça ne les rendait pas compétents sur le 11 septembre, ce qui est tout à fait vrai. Et donc, par exemple, on m'a expliqué que moi, je n'avais pas à parler du 11 septembre et à dire quoi que ce soit. Et on se demandait pourquoi j'avais écrit un article là-dedans. Ce à quoi j'aurais pu répondre, mais j'avais arrêté de répondre parce que je ne voulais pas passer le reste de ma vie à discuter avec les complotistes. Mais j'aurais pu répondre que l'article, enfin celui qui se veut scientifique en tout cas, parle de statistiques. Il ne parle pas d'attentat du 11 septembre. Dans l'absolu, moi je sais très bien que j'ai aucune compétence en ce qui concerne les constructions métalliques, les avions, etc. Par contre, pour les statistiques, ça je suis bien convaincu que l'argument statistique avancé pour dire qu'il y a eu un délit d'initié ne tient pas debout. Et c'était uniquement de ça que je parlais. Pour d'autres, ça a consisté, parce que c'est pas toujours facile de dire que les gens sont incompétents, hein. Pour moi ça va, pour Jérôme Quirant ça va, puis alors quand vous avez quelqu'un qui a reçu tous les honneurs de la science et qui est spécialiste dans l'effondrement des bâtiments métalliques de plus de 100 étages, évidemment c'est un peu délicat de dire qu'il n'est pas compétent quand soi-même on n'a pas la moindre notion ni de physique, ni de mécanique, ni de mathématiques. Alors on trouve autre chose, et qu'est-ce qu'on peut trouver ? Eh bien on peut trouver les conflits d'intérêts. Voilà. Et alors là, on trouve ça beaucoup sur le site Reopen 9-11, encore une fois. Vous avez plein de gens, parmi ceux qui ont écrit dans l'article, qui sont accusés d'avoir participé, d'avoir des intérêts, en tout cas, dans la version officielle. Donc, par exemple, on vous dit, tel scientifique, bah oui, d'accord, il connaît bien son domaine, mais c'est un des scientifiques qui a fait un rapport officiel pour le gouvernement où il disait que la version officielle était crédible. Donc, il n'est pas crédible. Voilà. Alors, évidemment, du point de vue rationnel, ça tient absolument pas debout, puisqu'on se dit, s'il a été choisi pour participer à l'élaboration du rapport officiel, c'est précisément parce qu'il est très compétent et qu'il est reconnu comme tel dans le monde scientifique. Et l'argument, entre guillemets, des complotistes consiste à dire que, puisqu'il a été choisi, il n'est pas crédible. Donc, en gros, soit vous n'avez pas, en caricaturant un peu quand même, hein, soit vous n'avez pas été choisi, ça prouve que vous n'êtes pas compétent, puisque si vous aviez été manifestement compétent, on vous aurait demandé de faire le rapport officiel. Soit vous avez participé au rapport officiel parce qu'on vous l'a demandé, et là, ça prouve que vous n'êtes pas crédible, même si vous êtes compétent. Et puis alors évidemment la troisième voie, ce qui serait merveilleux pour les complotistes, c'est de trouver des gens à qui on a demandé de participer au rapport officiel et qui auraient refusé, je ne sais pas s'il y en a eu d'ailleurs, il faudrait se renseigner, et qui auraient refusé pour des questions de déontologie. Voilà, ça ce serait intéressant pour les complotistes. J'en ai pas entendu parler, donc je suppose qu'il n'y en a pas, mais sait-on jamais. Voilà une piste pour un nouvel argument, amis complotistes, trouver un scientifique reconnu à qui on a demandé de participer au rapport officiel et qui a refusé pour des raisons déontologiques. Alors je précise tout de suite les règles du jeu. Les scientifiques qui auraient refusé parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils sont décédés ne comptent pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je reviens le mois prochain pour une nouvelle émission. Sceptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel.